Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
C'est une icône du 21e siècle. Vous connaissez tous son visage, Bill Gates, fondateur de Microsoft.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Roi de l'industrie du logiciel, il y a plus de 30 ans, le jeune Bill Gates est l'un des premiers à avoir prophétisé que le micro-ordinateur allait envahir nos bureaux, nos maisons, nos vies.
La curiosité est un vilain défaut.
Aujourd'hui, allumer son ordinateur, c'est avoir Bill Gates derrière son écran. Ses logiciels font tourner près de 9 ordinateurs sur 10.
Curieuse, curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
Il s'appelait Antoine Crozat, son nom ne vous dit rien, c'est normal, il est tombé dans l'oubli. Et pourtant, c'était peut-être le Bill Gates du 18e siècle, en tout cas ce milliardaire français qui vivait sous Louis XIV, possédait tout ou partie de l'Amérique. On vous raconte son histoire avec l'écrivain Pierre Ménard. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bienvenue.
Merci.
Je disais, juste avant la pause et la mise en onde de Sébastien Duduit, le rappelait que cet Antoine Crozat était 3 fois plus riche que Bill Gates. Alors, c'est anachronique de dire ça d'un homme du 18e siècle. Comment vous arrivez à cette conclusion?
J'ai demandé à Bill Gates. C'est effectivement très compliqué d'arriver à donner une mesure, puisque les choses n'ont absolument rien à voir. Mais on rapporte ça au PIB. On prend sa fortune, on estime sa fortune, on rapporte ça au PIB de l'époque, ouais. On obtient un ratio. Et c'est comme ça qu'on compare toutes les grandes fortunes, pour donner une idée.
Vous faites souvent ça
Personnellement,
les historiens font souvent ça évaluer les richesses.
Quand on a les classements Forbes, c'est à partir de ça que c'est fait.
Ouais. Alors, je sais pas, justement, le classement Forbes, je sais pas si vous pouvez répondre à la question pour Antoine Crozat, qui donc a vécu à la fois au 17e et au 18e, la charnière des deux siècles. Bill Gates, on peut dire aujourd'hui, grâce à Forbes, que c'est encore l'homme le plus riche du monde. Est-ce que Antoine Crozat, ce Français né à Toulouse, était l'homme le plus riche du monde
à son époque?
C'est difficile de répondre à la question.
Non, on peut répondre. Il y avait malheureusement pour lui 2 personnes qui étaient plus riches. Alors ça dépend des années, mais de même qu'aujourd'hui, Bill Gates n'est pas forcément le plus riche.
C'est vrai.
Mais voilà, il y avait 2 autres personnes qui lui disputaient la première place. Il y avait son grand rival, au départ ami et après grand rival, Samuel Bernard, qui faisait à peu près la même chose que lui. Mmh. Et il y avait les princes de Condé qui étaient les cousins du roi.
Bon, d'accord, on va quand même parler de lui ce soir, même si t'es pas le plus riche, il ne déçoit pas trop. On va raconter ce destin incroyable, essayer de comprendre aussi pourquoi il est tombé dans l'oubli. Antoine Crozat, il naît au milieu du XVIIe siècle. Dans quel milieu?
Alors, il naît dans un milieu relativement simple. Il vient d'une famille de petits commerçants. La famille descend d'un certain Étienne Crozat. Le père d'Antoine Crozat, qui s'appelle aussi Antoine Crozat, c'est plus simple comme ça, a commencé à devenir un peu plus riche et il souffrait de ne pas appartenir à la noblesse. Donc, il s'anoblit tout seul et alors il s'est fait passer pour le descendant d'un Étienne Crozat qui, lui, était noble et apprécié de Louis XIII.
Il y a déjà un petit peu une magouille.
Voilà, il y a eu une magouille qui a été repéré assez rapidement. Et donc, on lui a rappelé qu'il descendait bien d'un Étienne Crozat, mais ce Étienne Crozat était un vendeur de chaussettes.
Ah, ça ramène vraiment sur terre. Antoine Crozat, est-ce qu'il a fait des études? Est-ce qu'il est lettré?
Alors, lettré, ce serait aller un peu loin, parce que tout le monde se moque de lui, et Voltaire le premier, en disant qu'il a sans doute jamais lu un livre de sa vie, pas même son catéchisme. Mais oui, il a fait des études de droit.
Bon, de droit, et il a appris à manier l'argent et les hommes. Qui a été son mentor en la matière?
Alors, plus que le droit, je pense que ce qui l'a vraiment intéressé, c'était le maniement de l'argent. Mmh. Et il a été confié à quelqu'un qui n'était pas particulièrement recommandable, qui s'appelait Pénautier, qui était un homme extrêmement puissant à l'époque, puisqu'il gérait toute la fortune de l'Église, qui était donc la première fortune de France, et toutes les finances du Languedoc, donc qui était une sorte de ministre des finances de l'époque, un peu occulte, qui avait baigné dans l'affaire des poisons, qui avait passé 1 an en prison juste avant qu'on lui confie Antoine Crozat. Et en gravitant dans ce milieu-là, Antoine Crozat a pris le maniement de l'argent.
Et à 34 ans, 1689, il devient receveur général des finances de Bordeaux. Alors, c'est local ou c'est un poste important, ça?
C'est un des premiers postes de la monarchie. C'est l'équivalent pour un militaire de maréchal. C'est vraiment une des très grandes dignités du royaume. Le principe, c'est que l'État est ruiné et n'a pas les moyens de percevoir les impôts. Donc, il charge des personnes de percevoir l'argent, de lui avancer l'argent, en fait. Et ces personnes donnent une certaine somme à l'État et ensuite se chargent de les récupérer auprès de la population. Donc ils sont absolument détestés, puisqu'ils n'hésitent pas à s'en mettre une partie dans les poches au passage.
C'est ce qu'il va faire, Antoine Crozat.
C'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire.
Il va même spéculer sur l'argent des contribuables.
Le principe, c'est qu'il perçoit tout cet argent et avant de le rendre à l'État, il fait comme s'il avait du mal à récupérer cet argent et il le place dans des placements extrêmement lucratifs à très court terme.
Pierre Ménard, vous racontez cette histoire dans un livre, Le Français qui possédait l'Amérique, c'est publié au Cherche Midi. On y découvre un Antoine Crozat vraiment très ambitieux au point de repousser son mariage. Pour quelle raison ?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il ne me semble pas très porté sur la chose. C'est la seule personne à son époque, parmi les personnages un peu en vue, pour lequel on n'a trouvé absolument aucune maîtresse, rien que ce soit, alors que sa femme le trompait avec à peu près tout ce qui bougeait. Là, on a beaucoup de témoignages pour le coup.
D'accord. Mais, et donc, il va repousser son mariage parce que justement, il n'est pas très intéressé, parce
non,
que, ça,
pense que
ça l'inquiète.
La vraie raison, c'était que.
C'est voulait... la noce, ça lui fait peur.
Peut-être. J'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, il avait. Non, surtout, c'était quelqu'un d'extrêmement ambitieux, effectivement. Et son objectif était de s'élever dans l'échelle sociale. Et pour ça, il a épousé une femme qui venait de la finance, donc extrêmement riche, et une famille aussi riche que mal vue d'ailleurs. On disait à l'époque de son beau-père qu'on aurait dû jeter son cadavre sur la voie publique tellement cet homme était abominable.
Et donc vous ne m'avez pas dit pourquoi il repousse son mariage ?
Mais pour faire le meilleur mariage possible.
Pour faire le meilleur mariage
possible. Pour être lui-même suffisamment riche pour pouvoir se marier à cette... Et ils partagent. Ils ne sont pas du tout amoureux, mais ils partagent le goût de l'argent, c'est
ça ? Voilà, c'est ça. Alors effectivement, ils n'ont pas l'air particulièrement amoureux, mais jusqu'à la fin, sa femme veille sur lui. Ce n'est pas du tout une femme complètement retirée. Elle est à ses côtés, elle signe les contrats avec lui. Quand il est malade, c'est elle qui les signe à sa place et puis ils partagent le même goût de l'argent à tel point qu'au moment où Crozat meurt elle continue à faire des affaires devant son cadavre.
Ah bah c'est une famille super sympa.
Et
d'ailleurs le père d'Antoine Crozat voulait absolument que son fils s'élève socialement. Il a organisé son héritage en faisant quoi avec ses frères ?
Oui, son père était lui-même extrêmement ambitieux. On a vu qu'il faisait semblant d'être noble. Il a finalement réussi à le devenir. Et pour son héritage, il s'arrangeait pour que tous ses enfants deviennent prêtres, sauf deux, Antoine Crozat et un de ses frères.
Pour qu'ils héritent de la somme la plus importante possible,
c'est ça ? Le but était de concentrer les richesses entre les mains d'Antoine, qui était le plus intelligent d'entre tous. En fait, ça aurait dû aller au départ à son frère aîné, qui était manifestement un peu moins brillant. Donc lui, on l'a envoyé dans les ordres. Il est devenu prêtre et Crozat a hérité de tout grâce à ça.
Donc il y a une fortune qui est en train de se construire grâce à l'intelligence, grâce au maniement de l'argent, grâce à la spéculation, grâce à l'argent paternel, mais ça n'en fait pas encore l'homme le plus riche de France, le futur possesseur de la Louisiane. On va vous expliquer comment il s'est rapproché de cette lumière éblouissante, celle du roi soleil, en finançant ses guerres. Restez avec nous sur RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
C'est un vilain défaut, sauf jusqu'à 22h, évidemment, sur RTL. Dans cette émission, on aime les destins extraordinaires. Et ce soir, on est servi avec l'histoire d'Antoine Crozat, ce milliardaire français qui vivait sous Louis XIV. C'est Pierre Ménard qui nous raconte cette histoire. Si vous deviez d'ailleurs nous faire la liste de ses biens et de ses possessions au fait de sa puissance, ça prendrait trop de temps.
Ah bah, il faudrait beaucoup d'émissions de la curiosité pour faire ça.
Un petit aperçu.
Un extrait.
Alors, on peut récupérer l'inventaire après décès, qui donne une bonne idée. Et ça m'a pris 3 semaines à lire. Ça fait une bonne centaine de pages et c'est écrit de façon très tassée.
Donc, il y a de l'immobilier.
Il y a des actions, il y a des créances sur absolument tout le monde parce qu'il a prêté de l'argent à peu près tous les gens qui étaient importants à l'époque.
Il y a des lingots.
Il y avait des lingots, assez peu d'ailleurs. Il les a sans doute fait disparaître à ce moment-là assez discrètement.
Des pierres précieuses
à profusion. Il y a vraiment tout ce qu'on peut imaginer.
Et tiens, un petit aperçu à une époque où logeait sa fille.
Alors sa fille logeait dans un palais que vous connaissez sans doute qui s'appelle l'Élysée. Crozat avait...
C'est pas accessible aujourd'hui en termes de loyer, mais...
on n'est que locataire, justement.
Oui, voilà.
C'est nous qui payons, vous savez.
On ne peut pas y aller vraiment non plus souvent. Voilà. Elle logeait à l'Élysée.
Il l'a mariée à un sinistre individu qui s'appelait le comte d'Evreux, qui était absolument imbuvable. Elle l'a épousée à 11 ans, parce que Crozat voulait se dépêcher de la marier pendant que, le plus tôt possible.
Tant qu'elle était jeune.
Surtout, lui-même était assez âgé, donc il voulait la marier. Et ce comte d'Evreux vivait dans un palais qui était à côté de celui de Crozat, Place Vendôme. Il a fait boucher d'ailleurs la porte qui servait à sa femme à aller se plaindre chez sa mère, puisqu'il l'a maltraitée. Et un jour, quand Louis XIV est mort, le régent a pris le pouvoir. Et ce comte d'Evreux, qui était absolument imbu d'honneur, lui a réclamé de nouveaux honneurs. Et le régent, pour se moquer de lui a dit « Je vous les donnerai, mais si je peux les apporter chez vous et pas chez votre beau-frère. »
Alors ça, vous anticipez sur une...
J'anticipe sur une question.
Sur une histoire, surtout, entre le régent et Antoine Crozat, parce que ça a été à la fois conflictuel, une amitié qui est devenue conflictuelle. On racontera ça tout à l'heure, si vous voulez bien, Pierre Ménard. Mais quand vous dites, c'est le titre de votre livre, « Le Français qui possédait l'Amérique », c'est publié au Cherche Midi, est-ce que vous exagérez pas un petit peu, quand même ?
Très légèrement, c'est le côté un peu marseillais du livre.
Mais, c'est-à-dire qu'il a possédé quoi en Amérique ?
Il possédait pas l'Amérique en tant que telle, pas tout le continent évidemment, mais il possédait la Louisiane, qui était à l'époque, qui faisait la taille de la France.
Ah oui, c'est déjà pas mal.
Oui, c'est bien plus grand que la Louisiane aujourd'hui.
Mais il la possédait, mais pour quelle raison il possédait ?
Et pour quelle raison ? En 1712, la France était en guerre contre à peu près toute l'Europe pour soutenir le roi d'Espagne. Et Louis XIV se retrouve avec la Louisiane, qui est un territoire complètement ingrat. Il y a juste des crocodiles, quelques Indiens. Sur ce territoire qui fait la taille de la France, il y a 200 habitants, donc l'équivalent d'un petit village. Et ça coûte une fortune à entretenir. On ne voit pas trop quel est l'intérêt. Donc Louis XIV hésite même à l'abandonner. Et puis, il se rappelle qu'il y a Antoine Crozat, qui est fabuleusement riche, et peut-être qu'on pourrait lui donner la Louisiane, lui refiler même, parce que ça sert absolument à rien. Donc Louis XIV et ses ministres fabriquent des faux rapports en disant à Crozat que c'est un pays fabuleux où il suffit de se baisser pour amasser de l'or à pleine main, que c'est vraiment l'affaire du siècle. Évidemment, Crozat se précipite là-dessus et obtient pour 15 ans toute la Louisiane.
Contre l'argent, j'imagine.
Contre l'argent, contre... Alors, il a quelques obligations, mais c'est vraiment... c'est rien du tout. Il doit envoyer quelques soldats là-bas et envoyer 20 personnes par an.
Alors, vous racontez ce grand destin dans ce livre publié au Cherche Midi, et on est vraiment face à une fortune de plus en plus gigantesque. Comment cet homme qui n'était pas noble, vous nous l'avez rappelé, a pu gagner la confiance de Louis XIV ?
Ça s'est fait par étapes. Déjà, il gérait une bonne partie de la recette des impôts autour de Bordeaux. Et grâce à ça, il a pu financer une première guerre de Louis XIV. Ça l'a rapproché de ces cercles-là. Mmh. Et puis, il est devenu très ami avec un cousin de Louis XIV qui s'appelle le duc de Vendôme, qui était un homme assez particulier. C'était un très grand général, extrêmement courageux, mais et aussi un libertin. C'était un homme qui vivait dans une cour, donc entouré de libertins, de gens un peu bizarre, il se faisait dépouiller par ses valets. Son plus grand fait d'armes, ou sa plus grande fierté, selon Saint-Simon, donc c'est à prendre quand même avec des pincettes, mais c'était de faire ses besoins dans ses draps et d'aller raconter ça à tout le monde après.
Quelle histoire !
Voilà, et donc Crozat est devenu le meilleur ami de cet homme-là, et ça a contribué à le rapprocher de la cour.
Alors, pour posséder tous ces métaux précieux qu'il avait, Antoine Crozat, il a dû faire fortune, et cette richesse est passée par plusieurs trafics, notamment celle du tabac. Comment est-ce qu'il entre dans ce business du tabac ?
Le business du tabac, au départ, c'était un business libre, et puis on a rassemblé ça sous une ferme, donc sous une société privée, qu'on a donnée à une certaine veuve Scarron, qui était la maîtresse du roi, qui s'est empressé de la revendre. Louis XIV détestait le tabac, il supportait pas que les gens même prennent du tabac à côté de lui. Ça lui donnait envie de vomir. Et donc, Madame Scarron a revendu le tabac, la ferme du tabac, et elle a acheté avec cet argent le château de Maintenon, et c'est devenu Madame de Maintenon. Bon, la ferme a plus ou moins périclité, et en 1697, on a voulu remettre un peu d'argent là-dedans, et on a fait appel à Antoine Crozat à ce moment-là.
Est-ce qu'il a amassé une grande partie de son argent illégalement, Antoine Crozat?
Si on reste toujours sur cette ferme du tabac, on donne cette ferme du tabac. Le but, c'est à la fois d'assurer des revenus à la couronne et aussi de développer les colonies françaises grâce au tabac, justement. Sauf que Crozat a une idée géniale, c'est qu'il voit que le tabac de Virginie, donc dans les colonies américaines et pas dans les colonies françaises, coûte beaucoup moins cher et qu'il peut l'acheter au marché noir à Londres, en Hollande. Plutôt que de faire ce tabac dans les colonies françaises, il rachète le tabac aux Anglais, beaucoup moins cher. Donc les colonies périclitent complètement, elles abandonnent la culture du tabac et lui revend son tabac frelaté, mais en toute légalité.
Antoine Crozat devient de plus en plus riche et bien sûr il veut que ça se voit. Il achète donc un terrain sur la place Vendôme et fait construire un palais qui deviendra le Ritz. Restez avec nous les curieux.
RTL 20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
20h53 sur RTL. Si vous nous rejoignez, c'est l'histoire d'un milliardaire que l'on découvre dans la curiosité. Plus personne ne connaît son nom. Et pourtant, Antoine Crozat était richissime à l'époque de Louis XIV en quelques décennies. Ce petit bourgeois, originaire de Toulouse, fait fortune grâce au tabac, à la canne à sucre, aux esclaves, bref, à tout ce qui se vend dans le monde. Des trafics souvent illégaux, mais tolérés par l'État. Il faut dire que Crozat finançait les très coûteuses guerres du roi Soleil. Pierre Ménard, vous êtes notre invité pour raconter ce destin extraordinaire. Il n'était pas noble de naissance, on l'a dit. Comment a-t-il fini par le devenir? Là aussi, il l'a acheté?
Alors, c'est son père qui l'est devenu, en fait. Quand Antoine avait 19 ans, son père a une charge de capitaux à Toulouse. Ce serait l'équivalent de conseiller municipal aujourd'hui. Ouais. Donc c'est de la toute petite noblesse, mais ça lui assurait quand même l'entrée dans la noblesse. Évidemment, c'était pas assez pour lui, parce qu'à chaque fois, on le traitait de fils de cocher, d'ancien laquais. Il en souffrait beaucoup, et donc c'est un homme qui était obsédé par les honneurs et qui s'est acheté des châteaux, des titres, des terres. Il en avait tellement que si on les met bout à bout, tous ces châteaux, ça ferait l'équivalent d'un département français actuel. Et parmi ces châteaux, on trouve notamment le château de Saint-Fargeau, qu'il a revendu aux ancêtres de Jean d'Ormesson, et c'est pour ça que Jean d'Ormesson y a passé son enfance.
Donc, attendez, parce que j'essaye de visualiser, si on collait tous ces châteaux les uns aux autres, c'est ça, hein?
Voilà, et
avec les terres autour, ça donnera un département français.
Ça donnerait l'équivalent d'un département français.
Donc on parle d'un homme richissime, on devrait tous connaître son nom, et pourtant il est tombé dans l'oubli. Vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Le mariage de sa fille, vous nous l'avez un peu évoqué, lui a ouvert aussi les portes des grandes familles, c'est ça?
Voilà, c'est ça, son obsession c'était de se rapprocher de ses grandes familles. Il a notamment dépensé à peu près 3 millions de livres, ce qui ferait une bonne vingtaine de milliards d'euros actuels pour avoir milliards pour avoir une décoration qui s'appelait le cordon bleu du Saint-Esprit. Ce serait comme si on achetait la Légion d'honneur aujourd'hui.
Ça
mais bon
cher.
Le prix était donné n'était pas donné justement et cette fille qu'il a mariée au comte d'Evreux, le comte d'Evreux, donc le régent, lui a dit je vous donne l'honneur que vous réclamez, mais si je peux l'apporter chez vous. Classe qu'elle tienne, il fait construire un palais. Il veut faire un beau palais, évidemment. Il le finance avec l'argent de Crozat, puisque il vit entièrement sur les subsides de Crozat. Et ce palais, c'est l'Élysée. Seulement, ça tourne mal pour Crozat, puisque le jour de l'inauguration du palais, le gendre fait comprendre que maintenant qu'il a son palais et qu'il a de l'argent, il n'a plus vraiment besoin d'elle. Et donc, il lui dit merci de rentrer chez ton père et de ne jamais remettre les pieds ici.
Oh, mais quelle triste histoire!
Oui,
bon,
oui.
Alors, palais pour palais, Crozat, donc, il est très riche, il a récupéré sa fille. Il veut que ça se voie, il achète un terrain, place Vendôme, à Paris. À quoi ressemble la place à l'époque?
Alors, c'est une sorte de village Potemkin, pour que les façades soient bien harmonieuses. On a fait construire dans le vide toutes les façades, et on pensait revendre après des morceaux de façade aux gens, pour qu'ils fassent construire des hôtels derrière. Seulement, avec les guerres de Louis XIV, les gens ne voulaient pas forcément investir des sommes faramineuses dans des hôtels particuliers.
Ouais.
Et le seul qui a fait ça, c'est Crozat. Donc au moment où il emménage dans son palais, il est le seul avec une maison et autour, il a des façades vides absolument partout.
C'est du carton-pâte autour.
C'est du carton-pâte autour.
C'est assez génial.
Ce palais de Crozat, on peut le visiter aujourd'hui?
Alors, on peut le visiter pour la modique somme de 1000 euros par nuit, puisque c'est devenu le Ritz. Mais on peut le visiter. Il y a eu quelques modifications. Lui voulait faire un palais absolument splendide et il a eu une très bonne idée, c'était de recopier la galerie des glaces à Versailles. Donc il s'est fait une mini galerie des glaces dans son palais, ce qui n'a pas du tout plu à Louis XIV d'ailleurs, puisqu'il avait, un peu comme Donald Trump aujourd'hui, il avait tout doré, absolument tout, les meubles, les murs, tout était doré. Et il y avait une pénurie d'or à ce moment-là en plus, donc c'était rigoureusement interdit. Quand Louis XIV a appris ça, il a voulu mettre absolument tout le monde en prison, faire gratter les murs. Et puis Crozat a réussi à s'arranger, il a pu garder sa galerie dorée.
En finançant une guerre de plus, peut-être, on l'imagine. Pierre Ménard, vous publiez Le Français qui possédait l'Amérique aux éditions Cherche Midi. On va vraiment de surprise en lisant ce livre. Par exemple, ce monsieur Crozat a fait creuser le canal de Picardie.
Oui,
entre autres.
Entre autres. Il avait essayé de faire un premier canal à côté de Marseille, ça a complètement raté. Donc il s'est rattrapé juste avant sa mort avec le canal de Picardie. Le but, c'était à la fois de gagner de l'argent et je pense de laisser une trace dans l'histoire. Il commençait à devenir vieux et effectivement, il avait rien fait qui puisse laisser une vraie trace. Et ça s'est appelé le canal Crozat pendant quelques années. Et puis, malheureusement pour lui, aujourd'hui, ça s'appelle le canal de Picardie.
Oui. Est-ce qu'il a seulement profité ou est-ce qu'il a quand même aidé au développement de la France des 17e et 18e siècles par son action?
Alors, je pense que il poursuivait quand même avant tout son intérêt privé. Mmh. Par exemple, il monte un moment une société écran avec Louis XIV pour aller piller le propre petit-fils de Louis XIV, le roi d'Espagne. Donc cette société...
On imaginait des sociétés écran à l'époque.
C'est une des premières sociétés écran. Donc le but, c'est d'aller chercher l'argent espagnol, puisque dans les colonies espagnoles, il y a énormément d'argent. On raconte qu'il y a tellement d'argent qu'on pourrait faire un pont qui relie les colonies espagnoles à Madrid, en argent. Donc Crozet veut bénéficier de ce trésor. Et comme le commerce est interdit avec ces contrées-là, il monte une société d'exploration. Donc officiellement, ces bateaux font des démarches scientifiques. Et puis en réalité, dès qu'ils approchent des ports espagnols, ils font semblant de couler. À ce moment-là, ils ont le droit d'entrer dans le port. Crozat, ou plutôt ses hommes, achètent les soldats et les autorités avec des pots de vin. Ils vendent au marché noir plein de tout un tas de marchandises. Et à partir de ça, ils récupèrent plein d'argent. Qu'ensuite, ils rachètent du thé illégalement en Chine, qu'ils revendent après encore dans les colonies espagnoles. Et Louis XIV est ravi, puisque les navires reviennent chargés d'argent. Seulement, Crozat les trompe encore une fois. Parce qu'à ce moment-là, il fait disparaître une partie de la cargaison qu'il garde pour lui.
Brillamment malhonnête.
Oui, tout en dénonçant évidemment à la fin les gens qui lui ont acheté au marché noir cet argent.
Évidemment, un homme pareil suscite des jalousies, des convoitises après la mort de Louis XIV. Il va y avoir un règlement de compte en costume d'apparat. Ce sera juste après les infos sur RTL.
Et puis dans notre seconde heure de curiosité, on embarquera sur un brise-glace russe. 3 mois dans l'hémisphère sud à l'assaut des 40e rugissants et du continent blanc, l'Antarctique. Notre invité nous racontera son aventure fantastique.
RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bienvenue aux curieuses, bienvenue aux curieux qui nous rejoignent. On est ensemble jusqu'à 22h. On est en direct et on aurait eu bien besoin pendant cette quinzaine glaciale, la boule qui s'achève, de ce brise-glace dont on raconte l'histoire.
Vous voulez parler de l'académique Fedorov. Il emmène des marins, des techniciens, des scientifiques vers l'Antarctique pour des missions diverses. Notre invité a partagé le quotidien de ce bateau, de son équipe. Il a tout affronté, les 40e rugissants, les froids les plus extrêmes et l'ennui aussi. On reçoit Cédric Gras dans un instant.
Mais tout de suite, la chute d'un milliardaire sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. RTL.
La curiosité est un vilain défaut. Bienvenue sur RTL, les curieux.
On découvre le destin d'Antoine Crozat, milliardaire, petit bourgeois, parti de Toulouse pour devenir l'un des hommes les plus riches du XVIIe siècle et conquérir le monde, puisqu'il possédera, c'est pour ça que vous avez entendu cette mise en onde incroyablement américaine, une partie de l'Amérique, la Louisiane notamment, et ce sera grâce à Louis XIV.
Oui, ils n'écoutaient pas ça à l'époque.
Je crois qu'ils ne dansaient pas comme nous. Antoine Crozat, dont notre invité Pierre Ménard raconte l'histoire dans un livre qui est publié au Cherche Midi. Cet homme d'argent et de pouvoir est aujourd'hui un parfait inconnu. Nous, on le découvre avec vous, Pierre Ménard. Comment vous en avez entendu parler, vous, de lui ?
Excellente question.
Ça nous arrive de temps en temps d'en poser des questions mauvaises. Ouais.
C'était un peu par hasard. C'est en lisant des livres d'histoire où on parle de ce monsieur Crozat qui est parti de rien, qui a possédé l'Amérique. Ça m'a intrigué. J'ai eu envie de lire un livre sur lui et puis j'ai vu qu'il n'y en avait pas.
Comment vous avez pu reconstituer son destin ? Est-ce qu'il y a beaucoup de littérature sur lui, beaucoup de récits ?
Il y en a assez peu. À son époque, il y a quand même certains chroniqueurs qui en parlent généralement en très mal. Il y a un seul témoignage positif, mais c'est de façon assez hargneuse.
Par jalousie ou parce qu'on pense qu'il est malhonnête ?
C'est un peu un ovni à son époque. Il vient nulle part et il devient un des hommes les plus riches, les plus puissants de France. On ne sait pas trop d'où il sort, on ne comprend pas ce qu'il fait. C'est quand même un homme qui a une moralité assez douteuse. Il est dans le trafic d'esclaves, dans le trafic d'argent. Il fait des listes pour comparer les endroits où on peut trouver les meilleurs esclaves en Afrique en disant ceux-là sont trop timides, ceux-là sont très grands, ceux-là sont pas assez travailleurs. Il a des taux de mortalité sur ses bateaux qui font 40% alors que la moyenne c'est plutôt à 16%. C'est pas quelqu'un de particulièrement
c'est pas une bonne
sympathique.
Personne, ouais.
Voilà. C'est un peu un sale bonhomme aussi dont on raconte l'histoire ce soir, mais en enquêtant, à chaque fois que vous tiriez un fil, il y avait quelque chose d'autre, une nouvelle surprise,
C'était un travail assez difficile parce que comme ce qu'il faisait n'était pas particulièrement recommandable, il s'arrangeait pour détruire une bonne partie de ses archives. Donc à chaque fois, on trouve des dossiers, puis le sien a disparu. En plus, ses archives personnelles ont brûlé dans l'incendie du château à la Première Guerre mondiale. Donc c'était assez compliqué. Mais effectivement, en faisant des recherches en archives, on arrive à trouver un renvoi vers une autre archive. Et après, c'est un jeu de pistes entre différentes archives.
Alors son destin est incroyable parce que sa déchéance sera aussi fulgurante que sa fortune fut longue à amasser. Il avait aidé le duc d'Orléans à parvenir au pouvoir. Il faut rappeler cette partie de l'histoire rapidement. Quand et avec quels arguments? Comment as-tu aidé le régent?
Son argument préféré, c'est l'argent, donc c'est comme ça qu'il l'a fait. Mais à la mort de Louis XIV, il y avait une vraie rivalité entre le fils adultérin de Louis XIV, le duc du Maine, et le duc d'Orléans, qui était lui le plus légitime pour assurer la régence. Donc en prévision de cet affrontement, Crozat a donné beaucoup d'argent au duc d'Orléans pour acheter toute une partie de l'armée. Comme ça, le duc d'Orléans a fait casser par le Parlement le testament de Louis XIV et a pu devenir régent grâce à ça.
D'accord, donc ce duc d'Orléans, devenu régent grâce à l'argent de Crozat, il va pourtant précipiter sa ruine. Comment ?
C'est ça. La France est complètement ruinée à cette époque-là. On a des revenus qui font à peu près 63 millions de livres pour une dette qui fait presque 3 milliards. Donc on ne peut plus rien faire, il n'y a plus d'argent pour rien. Et le régent, pas le régent lui-même, mais ses hommes, décident de faire la liste de tous les financiers les plus corrompus, et soit de les condamner à mort, soit de prendre toute leur fortune. Crozat, évidemment, est...
En tête de liste,
et c'est le plus durement frappé par cette chambre, puisqu'il doit payer une amende de 6,6 millions de livres.
Une chambre royale de justice qui est créée pour l'occasion,
ouais,
c'est ça
ouais. Et ça rappelle les procès de Moscou. En plus, c'est extrêmement violent. En fait, les financiers servent de bouc émissaire, donc on les voue aux gémonies, on dit que tous les malheurs du royaume, c'est pas à cause des guerres, etc. C'est vraiment à cause d'eux, parce qu'ils s'en mettent plein les poches.
Et donc, il doit payer combien, Antoine Crozat, vous dites
6 millions 6 de livres. Ça
représente quoi?
Ça fait le salaire de 73 000 ouvriers à peu près. Le salaire annuel.
Annuel. Ah oui, mais il est complètement ruiné, Antoine Crozat.
Justement,
qu'il a payé.
Oui, ce qui est amusant avec lui, c'est qu'il a toujours, il retourne toujours les situations à son avantage. C'est à ce moment-là qu'il se souvient qu'il est à la Louisiane, qui lui coûte une fortune, qui ne lui rapporte rien.
Mais qu'on rappelle qu'il n'y a rien, il n'y a que des crocodiles.
Voilà. Alors il a essayé, il a envoyé quelques femmes là-bas, par exemple, pour aider au repeuplement. Des femmes qui étaient tellement moches que personne n'a voulu les épouser. Il a fait quelques démarches comme ça, mais ça n'a servi absolument à rien. Il n'a pas trouvé d'or. Et donc, il fait à son tour des faux rapport qui remet au pouvoir en disant que c'est un pays fantastique, qu'on peut faire plein de commerce là-bas, qu'il y a des richesses fabuleuses, et il réussit à annuler sa dette en rendant la Louisiane au pouvoir.
Alors il meurt, cet Antoine Crozat, le 7 juin 1738. Comment expliquez-vous qu'il soit tombé aussi vite dans l'oubli ?
Je pense que c'était déjà un personnage qui était assez peu apprécié à son époque, donc il n'y a pas forcément d'historiens qui ont voulu raconter sa vie déjà à son époque. Ensuite,
il aurait pu devenir un anti-héros.
Voilà,
il y en a eu dans l'histoire, mais
il y en a eu. Mais lui, c'est pas le cas. Et aussi, il fuyait comme la peste, un peu la lumière. Il avait quand même peur. Tout ce qu'il faisait était assez frauduleux, donc il n'avait pas non plus intérêt à être complètement dans la lumière. Et puis il détestait les écrivains, les artistes en général. Il les fuyait comme la peste. Donc ces gens-là n'ont pas non plus laissé beaucoup de témoignages sur lui.
Et c'est pour ça qu'on redécouvre finalement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard cet Antoine Crozat, ce Français qui possédait l'Amérique, ce milliardaire sous Louis XIV. C'est le titre de votre livre, Pierre Ménard, et c'est publié aux éditions du Cherche Midi. Merci
beaucoup pour
ce récit passionnant que vous nous avez fait partager avec nos auditeurs.
À bientôt au micro de la curiosité.
Merci.
Vous écoutez RTL.